Donc je vais venir sur la quatrième cible. Vous avez vu que c'est un peu en désordre. On a dit compétences narratives en réception, comprendre, puis les compétences lexicales et syntaxiques. Et bien maintenant, on aborde la question des compétences inférentielles, c'est-à-dire ces compétences qui permettent de remplir les blancs du texte, d'expliciter l'implicite, de déduire ce que le texte laisse entendre mais ne dit pas. Et donc cette compétence inférentielle, chez les petits, au fond, elle travaille sur deux compétences essentielles. Là, on s'appuie vraiment sur les travaux de O'Keill et de Kane, qui a beaucoup, et de Candeou, qui travaille beaucoup sur cette question des inférences. MacNeod, c'est ça que je cherchais. Et Vandenbroek, qui travaille beaucoup sur ces compétences inférentielles chez les petits et qui montre que ce développement est assez précoce à condition qu'on ait une attention avec eux pour les amener à déduire. Donc nous, on les travaille sur deux aspects, les états mentaux des personnages et les relations causales. Je vais plutôt m'intéresser aux états mentaux des personnages parce qu'on adopte une procédure qui est un peu nouvelle. Et on s'appuie aussi sur tous les travaux qui ont été menés depuis les années 80 sur la question de la théorie de l'esprit, cette compétence que les très jeunes enfants ont d'attribuer des états mentaux aux autres, de penser que sa maman, son papa pense quelque chose et que ce qu'elle pense, ce qu'elle sait, ce qu'elle fait va avoir un effet sur son comportement. Donc ce développement est précoce. Dès l'âge de 9 mois, les enfants sont capables de comprendre ça. Pas tous et pas tout le temps, mais... En revanche, là, il va falloir utiliser cette théorie de l'esprit, non pas pour agir sur autrui ou pour comprendre autrui, mais pour comprendre autrui dans la littérature, ce qui est déjà une autre dimension. Alors, je définis pas la théorie de l'esprit comme la capacité à attribuer des états mentaux aux autres, penser que les autres pensent autre chose ou pensent la même chose, pensent, croient, ressentent, etc., quelque chose. Et la compréhension de la théorie de l'esprit facilite le développement de la compréhension en lecture parce que pour comprendre, eh bien, il faut très souvent essayer de se mettre à la place d'un personnage. Par exemple, comment expliquez-vous ? Mettez-vous donc à la place du loup du petit chaperon rouge. Et comment, si vous étiez à sa place, est-ce que vous auriez fait ce pari en lui disant « Viens, on fait une petite course, passe par-ci et passe par-là » ou est-ce que, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous ne la dévorez pas sur place ? Voilà, donc là, il faut bien se mettre à sa place pour essayer de comprendre l'intention qu'il a quand il lui dit « Viens, on fait une petite course ». Et arriver à en manger deux plutôt qu'en manger qu'une, et discrètement plutôt qu'en public. Voilà. Là, on pourrait avoir plusieurs interprétations. Et donc, pour comprendre ça, eh bien, les jeunes enfants, les lecteurs, doivent considérer à la fois leur propre pensée, la leur, mais aussi les états mentaux des personnages, leurs connaissances, leurs émotions, leurs intentions, ce qu'ils savent, ce qu'ils croient, pour faire des inférences sur... ce qui pousse les personnages à faire ce qu'ils font. Ça va ? Ok. Et les élèves qui comprennent mal, très souvent, c'est ce que montrent les travaux de Kane par exemple, et surtout de O'Keill, eh bien ceux qui comprennent mal traitent souvent insuffisamment les motivations internes des personnages, les états mentaux, les motivations internes. Ils se concentrent sur ce qu'ils font, mais n'en déduisent pas les raisons. Donc ils voient bien ce que font les personnages, sans anticiper, sans comprendre, pourquoi ils font ce qu'ils font. D'où, dans notre scénario, cette idée que pour comprendre un récit en profondeur, eh bien, il faut apprendre aux enfants à s'interroger sur les bonnes raisons que les personnages ont de faire ce qu'ils font, de dire ce qu'ils disent, de penser ce qu'ils pensent, de croire ce qu'ils croient et de ressentir ce qu'ils ressentent. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup dans le vocabulaire là de la pensée et des émotions. Que l'auteur ne dit pas toujours et qu'il laisse au jeune lecteur le soin de découvrir. Et autre chose qui nous paraît fondamentale, d'autant plus qu'on vient de travailler un scénario pour les petits dans lequel cette question se pose de manière assez majeure, l'idée que le lecteur sait des choses que le personnage lui-même ne sait pas. Et donc là, il va falloir monter des scénarios qui permettent aux élèves de prendre conscience de ça en situation. Je n'aurai pas le temps de vous montrer l'exemple, je pense. Mais sachez qu'on est en train de travailler sur ça. Et j'ajoute un enseignement indispensable. Là encore, beaucoup d'auteurs, dont Sénéchal et Justice, ont montré que si les enfants sont habitués très tôt à adopter ce type de focale, j'ai dit focale, eh bien, ça facilitait grandement leurs habiletés à comprendre. Donc, je vais vous proposer un exemple dans un scénario qui va sortir très vite, c'est-à-dire normalement au mois de mai, qui est destiné aux élèves de moyenne section et qui s'appelle la chasse au caribou. Vous avez la primeur parce que même les enseignants qui participent à l'expérience ne l'ont pas encore reçu. Donc, vous avez la primauté. Donc, la chasse au caribou, publié aux éditions L'Élan Vert. Et je tiens à signaler parce que c'est une maison d'édition qui est très investie et qui a vraiment l'idée que ces albums peuvent aider les élèves à apprendre et donc qui ont eu la gentillesse de nous offrir les droits. C'est-à-dire que, bien sûr, les livres, on les leur achète, mais ils nous offrent les droits du livre, ce qui est remarquable. Donc, je remercie ici. Gladys Cesbron. Voilà. Donc, je vais vous en lire le début. Ce matin, il fait froid. Je pars à la chasse au caribou. Même le froid ne m'arrêtera pas. Voilà, c'est le texte. Voilà l'image. Faites connaissance avec ce petit garçon qui part à la chasse au caribou et même le froid ne l'arrêtera pas. Alors, ce livre est intéressant parce que contrairement aux autres qu'on travaille, tout est dans l'image, très peu dans le texte. Habituellement, c'était plutôt l'autre choix qu'on faisait. Beaucoup de choses dans le texte, peu de choses dans l'image. Et donc là, on va apprendre aux élèves que pour avoir de l'information, il va falloir traiter en profondeur l'image parce que sans ça, on ne comprend pas l'histoire. Donc, je vous lis la suite. Sur le chemin, tout est brun. Une ombre passe. Une ombre inquiétante. C'est un caribou. Donc, je vais vous la raconter en adoptant le truc. Et là, je vous demande, je vais vous le raconter en adaptant, en traduisant, en expansant. À votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'image? Vous vous rappelez que c'était une question. Hein. C'est un caribou, point d'interrogation. Donc, soit un caribou, soit autre chose. Puisque c'est une question, voilà la réponse. Alors, est-ce que c'est un caribou? Rappelez-vous que vous avez appris tout le lexique de caribou, vous savez parfaitement comment c'est constitué, leurs pattes, leurs bois, leur tout, vous savez tout. Est-ce que c'est un caribou? Non, pourquoi? Parce qu'il a des griffes, il a des poils et tout ça, l'autre il est marron, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, on va faire toute une tâche de comparaison, je vous passe. Non. Donc, il voit ça, il dit non et non. Je vais à la chasse au caribou, pas au loup. Du coup, pour la question que vous aviez tout à l'heure, eh bien, vous savez que vous allez voir un loup. Le voici, le voilà. Donc, vous voyez hein, ces hypothèses qu'on fait en alternance. Et vous regardez bien le petit garçon. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Non et non, je vais à la chasse au caribou. Qu'est-ce qu'il pense? Voilà. Vous voyez les états mentaux. Le texte nous dit non et non. Il parle au loup et il lui dit non, je vais à la chasse au caribou. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense, hein? Sors de là, il pense. Je vais t'assommer avec une pierre et donc tu vas débarrasser le plancher. Je ne vais pas me laisser... Voilà, d'où l'intérêt de faire décrire l'image, de voir que le petit garçon a une pierre dans la main, qu'il est menaçant, qu'il lève le doigt contre le loup et qu'il dit « Non, tu ne vas pas m'arrêter ». Et le loup, lui, que pense-t-il? Mais de la même manière, on a évidemment fait décrire l'image. Hein. Donc sur l'image, on voit que lui aussi ne va pas s'en laisser compter, qu'il a les bras croisés, les dents sorties, les yeux foncés. Et donc, lui, il pense « Mais qu'est-ce que c'est que ce microbe ?» Allez, dégage, n'en parlons plus. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Hypothèse, qu'est-ce qui va se passer? Qui va l'avoir le dessus? Ah. Donc là, évidemment, ce qui est important, ce n'est pas la bonne réponse, c'est il y a deux solutions. Il n'y en a qu'un qui est des deux qui peut gagner. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est le loup? Les uns, voilà. Il n'y a qu'une bonne réponse. Qui va donner la réponse? L'image. Donc vous voyez ici, parce que ça on l'a travaillé, tout ce que vous déduisez de l'image et qui est complètement symbolique, c'est-à-dire le ressort, l'étoile et un truc rond sur la tête égale. Donc vous avez lu des BD, vous êtes au courant de ça, mais des enfants d'école maternelle, certains n'ont jamais vu ça et ne comprennent pas ce symbole nécessairement. Donc là nous on a beaucoup traité ça dans la partie lexique, à quoi on reconnaît qu'il est assommé, les étoiles, etc. Donc là il voit bien qu'il a été assommé, mais vous êtes d'accord qu'ici et dans le texte, et dans l'image, il y a une implicite énorme, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Un énorme blanc. C'est pour ça que j'adore ce texte. Un énorme blanc qu'on va travailler ainsi, on a nos deux images. On va en mettre une nouvelle, elle est blanche. Vous voyez, pour faire comprendre aux élèves que le texte compte sur eux pour le remplir, ce blanc, eh bien, on le figure comme ça. Donc, vous voyez, hein, ça, l'implicite, il y avait deux degrés hein, dans ce que j'ai dit. Il y avait tout ce qui concerne les états mentaux du personnage. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il sait. Et l'autre degré, c'est remplir les blancs du texte et de l'image. Et de l'image. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, dans le scénario qu'Isabelle vient de travailler, les trois grains de riz, on a ici beaucoup d'images manquantes et qui vont devoir être fabriquées par l'enfant. Mais ici, on a les deux. Il manque le texte, il manque l'image. On y va. On met les élèves en petits groupes, l'un avec la TSEM, l'autre avec l'enseignant, d'autres tout seuls, et on leur demande d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, de décrire qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments. Ils vont faire des dessins, certains vont écrire, d'autres vont parler à la maîtresse en dictée à l'adulte, d'autres vont faire le dessin, etc. Et puis on va mettre en commun ce qu'il y a au milieu. Et là, on l'a représenté comme ça. Là, on a fait voter les élèves. J'avais pris plein de représentations de bagarres dans la BD et je leur ai demandé celui qui, pour eux, enfin, laquelle était pour eux la meilleure. Et donc, je suis allée dans une école de Ré+ chez des moyennes sections et ils ont voté pour celle-ci parce qu'ils aimaient bien, on voyait bien. Donc, c'est celle-là qu'on a retenue. Et ensuite, eh bien, on trouvait important de faire valider leurs hypothèses avec ça. Et ça, on n'en a jamais parlé. Mais dans la plupart de nos outils, on a la chance, dans tous nos outils, on a la chance de travailler avec Frédéric Chassagnol, qui est maître E et qui est aussi conteuse et qui a beaucoup travaillé avec nous. Et pour la plupart de nos scénarios, sauf Moussa, elle a produit une version de narration expansée. Elle l'adresse essentiellement aux élèves les plus fragiles et aux élèves plutôt allophones, mais tous les enfants adorent, en fait, tous les enfants passent leur temps à écouter Frédéric Chassagnol. Et parfois, quand on les enregistre, moi, je connais bien et j'entends Frédéric Chassagnol qui raconte. Et donc, elle expanse, donc elle traduit le vocabulaire, elle remplit les implicites, etc. Pour vous rappeler, notre but premier, c'est apprendre à comprendre. Donc, elle vise à favoriser la compréhension des enfants. Et tout ça, c'est par exemple dans Les Deniers de Compère Lapin, qui est publié, il y a la narration de Frédéric Chassagnol qu'elle nous a offert et je l'en remercie publiquement. Je vais vous faire écouter un tout petit bout.
Mais ce petit garçon n'a peur de rien. Il n'a peur de personne. Il n'a même pas peur d'un loup beaucoup plus grand que lui. Un loup qui a des griffes au bout des pattes et des dents très très pointues. Alors, il pose son arc par terre, il ramasse une grosse pierre dans sa main et il crie très fort au loup. Non, non et non, je vais à la chasse au caribou.
Voilà, il y a plus long que ça, mais on ne va pas y passer. Vous avez vu, elle décrit l'image, oui.
Est-ce que l'image du milieu est aussi décrite ?
Oui, oui. Il prend la pierre dans sa main, il le jette et pif et paf et pif et boum et aïe aïe aïe. Le loup crie, le loup s'en va, voilà. Donc elle décrit tout. Mais les élèves l'entendent après qu'ils ont fait tout le travail. Et donc on vient valider et ils sont très très fiers en fait d'avoir tout pensé. Mais alors il y a des choses qu'ils avaient... Parce que comme ils ont beaucoup décrit l'image, ils avaient eux vu qu'il avait posé son arc, vous ne l'aviez peut-être pas vu nécessairement, que le loup a des dents pointues et tout, comme il avait décrit très très en profondeur l'image, ils sont très fiers de voir que au fond... Ben, l'auteur, la narratrice, la conteuse fait exactement le même travail que celui qu'ils ont fait. Ça poursuit, c'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même le loup ne m'arrêtera pas. Et puis ensuite, vous allez avoir un même épisode, là. Enfin, la suite, c'est un conte en randonnée. Vous voyez apparaître ça. C'est un lynx. Vous avez vu ce qu'il y a, le petit garçon a dans les mains. Image blanche. Image suivante. Il assomme le lynx. Puis, il va rencontrer... un animal qui fait greux. Est-ce que c'est un caribou? Non, c'est un ours. Image blanche, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on a un peu des idées. Hein. On a des idées chaque fois, c'est ça qui est génial. Hein. Quand on voit la boule, on s'entend. Quand on voit le bâton, on s'y attend. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il est sous la neige. Et puis ça continue. Dans la clairière, tout est blanc. Une ombre se terre, une ombre immobile. C'est un caribou. Et là, les élèves ils disent, bah oui, ça va, il y en a eu trois, maintenant c'est lui. On les voit les bons en randonnée. Hein. C'était pas sur Caribou, mais c'était sur la chèvre biscornue, ça. Oui, oui, c'est bon, c'est le méchant, quoi. Voilà. Le voilà. Ah, il y a un texte, là, qui n'apparaît pas, c'est... J'arme mon tir, je vise. Vous le voyez là ? C'est le texte. Et nous, on affiche ça. Voilà, c'est ma dernière heure, j'ai 3 enfants. Allez-y. Je ne veux pas mourir. Mais vous avez vu la petite larme, là ? Parce que là, elle n'y est pas, hein, dans l'image du haut, là. On ne la voit pas. Mais après, il y a une énorme image. C'est un détail, et on voit la petite larme. Là, les élèves, ils sont... Donc, qu'est-ce qu'ils pensent ? Bon, ça va, vous l'avez dit. Et là, on va vérifier de la même manière. Est-ce que vos hypothèses sont possibles, bien sûr ? Et donc là, on écoute Frédéric Chassagnol qui raconte cette scène de manière magnifique. Et puis après... Coucou. Vous voyez pourquoi c'est bien le numérique ? Ah ! Ah ! Vous avez vu sa tête ? Tout à l'heure, il avait son sourcil froncé et tout ça. Voilà. Voilà, allez-y. Voilà, voilà. Voilà. Là. Hop là, je vois que... Y a ce... Là où vous êtes très fortes, hein, là où vous êtes tous très forts, c'est que vous dites « je ». Je ne peux pas lui faire ça, j'ai 3 enfants. Vous verrez que chez les petites sections et chez les moyennes sections, ils vont commencer par dire « il ». Et donc, nous, ce qu'on voudrait leur apprendre, c'est « il se dit oui ». Alors, vas-y, transforme-le en langage direct. Bon, il n'y a pas le feu, hein, mais c'est amusant. Donc, les grands, ils sont très capables de ça. Je ne peux pas le tuer. Finalement, je n'aime pas tant que ça la viande de caribou, quoi. Hein. OK. Et là, pareil, on vérifie avec Frédéric Chassagnol qui raconte cette scène. Alors là, c'est déchirant. Je vous recommande Frédéric Chassagnol qui raconte cette scène. Et la suite... Ah, si vous voulez, oui. Ah, mais c'est bien. On l'a ? Oui.
Mais oui, il a bien vu ce petit garçon. Il a bien vu que le caribou a peur et qu'il pleure. Et il comprend qu'il ne veut pas mourir, qu'il ne veut pas être mangé, qu'il veut même peut-être être son ami. Et le petit garçon qui n'a peur de rien, ni du loup, ni du lynx, ni de l'ours, qui n'a peur de personne, il est gentil en fait ce petit garçon. Et quand il voit que le caribou pleure, il a pitié de lui. Il n'a plus du tout envie de le tuer.
Je passe. Il fait quoi ? Allez-y, on fait des hypothèses et on y va. Là, on a déjà la réponse. Mais non. Avez-vous compté les flèches ? Est-ce qu'il a posé son carquois parce qu'il lui a fait la peau ? Ah ben, on n'en sait rien. Dites pas non, non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il s'est fait manger par un caribou. Je l'avais pas. Il lui a donné ses moufles, mais peut-être qu'il les mangeait en fait. Oh mon Dieu. Oh, quel dommage que je vous ai pas rencontré avant. Il lui a piqué son écharpe. Il lui a piqué son bonnet. Mais non ! Et donc, vous voyez cette découverte progressive de blabla. Mais c'est l'histoire qu'il avait mangé, j'avais pas pensé. Voilà. Exemple de tâche. Alors, dans tous nos scénarios, on en a beaucoup. Dans Moussa, on en a. Dans le carré, voilà. Il y a souvent ces tâches-là. Dernière cible, et on en aura terminé avant les présentations des résultats, les compétences narratives en production. Là-dessus, fondamentalement... On ne va pas en dire beaucoup, parce que c'est des choses qui se font déjà beaucoup dans les classes. On a tout récupéré dans les pratiques des maîtres. Mais j'avais envie de m'arrêter sur les 6 bonnes raisons théoriques qui nous poussent à accorder une place prépondérante à l'activité de narration orale réalisée par les élèves. C'est quelque chose qu'on trouve très peu dans la classe. Ce qu'on trouve, c'est les élèves ensemble qui racontent, mais rarement cette centration sur l'élève tout seul qui raconte. La première raison... c'est que l'activité de rappel finalise la tâche d'écoute. Quand les élèves savent que c'est pour mieux me raconter mon enfant qu'ils écoutent, alors ils stockent autre chose autrement. On en a la preuve cette année sur les premiers pré-tests. On voit que les élèves qui ont bénéficié d'une année de Naramous n'écoutent pas de la même manière et ne racontent pas de la même manière au même âge par rapport aux élèves de l'an dernier. Ça, c'est très flagrant pour nous. Ils ont changé d'attitude, d'écoute et de prise d'information sur l'image. Et c'est très facilement repérable. Du coup, ça, c'est plus facile pour eux, puisqu'ils savent qu'ils vont devoir raconter, de commencer à mémoriser les idées importantes. Ça aussi, on en a des indices très forts. Ensuite, eh bien, ça permet de centrer l'attention de l'enfant sur le caractère actif et intentionnel de la compréhension. C'est un travail de comprendre. C'est un travail de raconter et ça oblige à mettre en mémoire. Donc, on n'est pas passif dans cette situation d'écoute. On est vraiment en train de traiter l'information. Et donc, ça encourage cet effort de compréhension et de mémorisation. Ensuite, eh bien, on l'a déjà dit, Isabelle en a beaucoup parlé, le fait d'avoir à raconter amène à mieux apprendre le lexique. Et ce qu'on a pu observer, qui est très, très amusant, c'est qu'au début du scénario, ils racontent beaucoup dans leurs propres mots, ils font des périphrases. Et plus ils sont experts du texte, et moins ils supportent de ne pas prendre le mot de l'auteur. Et je vois que vous confirmez. On écoutait tout à l'heure une de vos élèves qui dit en petite section, au lieu de dire tout à coup, comme le disent beaucoup d'enfants, elle dit soudain. Vous l'avez également entendu chez Lexi tout à l'heure. Donc, plus le travail avance et plus les élèves sont soucieux d'utiliser le mot de l'auteur. Et ce qui est très amusant, c'est que la deuxième année, on a pu observer que dès le premier appel, eh bien, ils emploient tout un tas de passés simples parce qu'ils ont conscience qu'ils sont dans de l'écrit. Alors, il toc-toca à la porte, il prendra, il hop, hop, hop. Il y en a de temps à tous les étages. Mais c'est bien cette idée que, oui, c'est de l'oral, mais ça a un rapport avec l'écrit. Et ce passé simple, il a ce marquage-là. Cette narration incite aussi à rendre explicite une partie des informations implicites du texte. Si vous racontez Caribou à quelqu'un qui n'a pas les images, vous êtes obligé d'expliciter l'implicite, sinon le texte est incompréhensible. Je vais à la chasse au caribou, même le loup ne m'arrêtera pas. Je vais à la chasse au caribou, même le loup ne m'a pas arrêté. On ne comprend rien, donc vous voyez qu'il faut raconter l'image. Donc produire des expansions. Et puis ça favorise aussi le développement de compétences qui seront très utiles en production écrite de texte. Là, on a le retour des enseignants de CP qui disent que les élèves qui ont bénéficié de Naramous, eh bien, ils ont face à l'écrit beaucoup de tournures syntaxiques qu'ils vont récupérer dans les textes qu'ils ont mémorisés. Je vous renvoie encore à Daniel Pénac. Donc, ils utilisent des tournures syntaxiques qu'ils ont apprises quand ils racontaient, beaucoup de lexique, et certains allant même jusqu'à cloner certains textes pour produire un texte qui va bien. Donc, ce n'est pas Gruffalo, c'est Grululu, et oup, on raconte exactement la même chose. Et enfin, ça permet à l'enseignant aussi de mieux évaluer ses élèves et de réajuster ou pas son enseignement. Je ne suis pas en train de dire qu'une bonne manière d'évaluer tous les élèves, c'est de tous les enregistrer et de les écouter. Mais en tout cas, de les écouter raconter, c'est une très bonne manière de savoir où ils en sont. Alors, là, ici, on a fait une liste de tâches que nous avons ritualisées dans nos scénarios pour développer les compétences narratives. Donc, je vais les défiler. Mais en fait, on a déjà parlé d'un peu tout, donc ça peut aller un peu vite. D'abord, pour développer les compétences narratives, il faut écouter son enseignant, lire et raconter le texte à de multiples reprises. L'enseignant lit et raconte beaucoup, et il se présente donc en modèle de narration, et c'est heureux. Hein. Ils entendent l'enseignante raconter l'histoire avec la maquette, avec les images. Ils décrivent précisément les illustrations, et donc sont bien obligés pour décrire de commencer à raconter. Ils racontent l'épisode, ils écoutent le CD audio, le texte lu. Ils écoutent aussi la version expansée, le texte raconté, mais le CD audio y est toujours. Ils visionnent parfois le dessin animé. Une seule élève raconte le ou les épisodes, on en a déjà parlé. Les élèves racontent en petits groupes, avec la maquette et les figurines, avec ou sans la supervision de l'enseignant et de la TSEM. Ils racontent avec l'album, ils jouent l'histoire en théâtre, avec la maquette, avec les marionnettes, à plusieurs, tous seuls, etc. Et tous s'entraînent à raconter avec la maîtresse. Tous, soit tout seul, soit à plusieurs. Et donc, on va beaucoup faire ce type d'activité que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai montré avec Caribou. On raconte un premier épisode, un deuxième, un troisième, et c'est le même élève qui produit les trois rappels, qui tient le récit. le quatrième épisode. C'est ce qu'on appelle depuis Lectorino et Lectorinette les reformulations en cascade pour apprendre aux élèves à tricoter les idées entre elles, fabriquer une représentation mentale cohérente de toutes les informations. On trouvait ça dans Lectorino, on l'a récupéré dans Naramous, et donc on fait ça. Alors, par exemple, je disais aussi qu'on rendait les élèves attentifs à la structure de l'histoire, comment l'histoire est organisée. Une élève va raconter Gruffalo. Je vous la raconte. Alors, en fait, elle commence à raconter et on met les images en validation. Ça, on le fait beaucoup chez les petits. Chez les grands, on peut mettre l'image et parce que les élèves racontent et ne décrivent plus l'image. Une souris se promène dans un grand bois profond. Je ne vais pas raconter, je vais le lire parce que... Ah, se dit un renard, une souris, c'est très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce bois? J'ai un joli terrier, viens manger avec moi. C'est terriblement gentil, mon bon renardo, mais j'ai un rendez-vous avec un gruffalo. Un gruffalo? Mais qu'est-ce que c'est? Un gruffalo, tout le monde le sait. Ses défenses sont terribles, ses griffes sont effrayantes, ses mâchoires terrifiantes. Je dois le retrouver près de ce rocher. Et le renard rôti est son plat préféré. Oh, renard rôti? Ah non, merci. Adieu, petite souris. Et très vite, il s'enfuit. Ah, le stupide renard! Il ignore donc le sceau qu'il n'existe pas de gruffalo. Bon, là, je récite. Hein. La petite souris chemina dans le grand bois profond. Elle rencontre un hibou. Et là, vous voyez la structure. Et donc, la petite fille va poursuivre son rappel. Et vous voyez comment, quand on va arriver au troisième épisode, la rencontre avec le serpent, bien entendu, on ne va pas lire le texte aux élèves. On va présenter l'épisode exactement de la même manière. Charge à eux de raconter l'histoire sans avoir entendu le texte. Ils vont pouvoir s'appuyer sur toutes leurs compétences premier, deuxième épisode pour raconter le troisième épisode. Ils adorent cette activité. Ça va? Okay. Alors ensuite, avec les petits, bien, on va un peu les habituer à traiter de l'ordre. Bon, ça, on ne se refait pas, hein, ordo. Et on va aussi les habituer, enfin leur apprendre, à mettre en mémoire l'ordre des personnages. On le fait aussi dans Moussa. Et là, on le fait dans ce petit Suzy, petit toi, regarde derrière toi, parce que l'ordre d'arrivée des personnages est important. Donc, on va leur faire ranger dans l'ordre les personnages. Suzy qui est suivi par un renard, lui-même suivi par un loup, lui-même suivi par un ours, lui-même suivi par un hibou. Et le fait d'avoir à ranger amène encore à raconter. Quel personnage on doit mettre en premier, pardon? Eh bien, Suzy, pourquoi? Parce que Suzy, elle va se promener. Et qui va arriver juste après? C'est du temps, hein? C'est pas de l'espace. Hein. Et juste après qui va arriver, le renard, qu'est-ce qu'il va dire le renard? Et on amène les animaux comme ça. Mais on les amène une fois que les élèves ont raconté. Vous voyez la tâche. Hein. Et donc là, eh bien maintenant, on va faire comme avec Isabelle tout à l'heure. On va cacher tout le monde. Et on va leur demander de dire, bah tiens, qui est caché ici? Qui est-ce qui est là? Ils vont donner la réponse. Suzy, pourquoi? Parce qu'au début, Suzy, elle se promène, elle ne veut plus entendre les oies qui jacassent, elle va se promener. D'accord. Et après, qui vient? Juste après, qui arrive dans l'histoire? C'est le renard qui poursuit Suzy. Très bien. Et juste après, et juste après, et juste après, et juste après. Ça va? Donc, c'est bien du temps. Et ensuite, eh bien... Pardon, ça va. On va... Excusez-moi, je passe. Et une fois qu'ils ont mémorisé l'ordre, on remet tout ça dans le cadre de l'histoire. Qui se promène en premier? Suzy. Et là, vous voyez qu'on a changé la perspective. L'ordre a changé d'ordre. Puisque là, voilà. Donc, qui vient juste après? Qui suit Suzy? Le renard. Et là, dans l'album, si vous le connaissez, vous savez que ça va être une difficulté majeure. Les enfants voient quelque chose, ça, que Suzy, bien sûr, ne voit pas. Ça va? Et c'est ça qu'on a travaillé pour faire comprendre aux élèves que eux ils savent, mais Suzy ne sait pas. Qui vient derrière? Qui vient après? Pardon, pas derrière. Et après? J'insiste, hein, pour ne pas dire derrière, mais pour dire après. Hein. C'est du temps, là, dans l'histoire. Et bien là, rideau. Qui est où? Ça va? C'est mieux les couleurs. Hop, hop, ça va, on vérifie qu'on sait bien. Et maintenant, il y a un élève d'une autre classe qui a collé trop vite, qui n'a pas appelé la maîtresse. On va corriger. Alors, on y va. C'est bien ça? Pourquoi? Et là, on fait raconter. Vous voyez toujours ces activités qui vont permettre encore de raconter autrement. Oui, c'est Suzy, elle se promène et tout ça. Alors, qui va y avoir derrière? Le renard. S'il a bien rangé l'enfant, on va trouver le renard. Oh là 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 là, il s'est trompé, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas l'ours, l'ours il vient après, et là, et donc on change. Ça va? On corrige. Voilà, là il s'est trompé, on change tout. Oh, l'arbre, le renard dans l'arbre. Ça, c'est la même activité, je la passe, et après j'en ai une autre qui me fait rire, alors je vous la montre. Là, voilà. Donc, on voit pas tout, on a des indices, on sait déjà que ça va pas. C'est bon? Et vous voyez l'intérêt du vidéoprojecteur. Voilà. Alors, ensuite, eh bien voilà, là je vais défiler les images et j'aurai largement fini à 2 heures. Nous sommes allés dans les classes et nous avons recensé tout ce que les enseignants ont fabriqué autour de nos scénarios. Ici, vous avez le gros chagrin d'Edgar. Ça, là, c'était le jour où la maîtresse raconte l'histoire avec la maquette. Ici, c'est une classe de grande section qui raconte Compère Lapin tous ensemble. Alors, ils sont 6 et ils s'entraînent à raconter, chacun ayant un personnage. Ici, ce sont les élèves, votre collègue vous l'a montré, qui font du théâtre dès le départ, qui commencent à jouer les scènes. Ici, c'est une école d'Oyonnax qui a fait un spectacle de Noël, non, de fin d'année, en montant le Gruffalo, spectacle pour les parents. Dans le coin bibliothèque, pour s'entraîner à raconter, eh bien, il y a un casque, une multiprise, j'ai mis le prix, et des élèves qui écoutent. Et là, vous regardez comment ça s'organise. Vous voyez les petites sections qui sont 5. Une tient le livre, que pour elle. Et les autres écoutent l'histoire, c'est elle qui tourne les pages. Voilà, des maquettes de Gruffalo, des enseignants qui sont quand même extrêmement doués. Des enseignants qui sont extrêmement doués. Là, vous avez un... J'adore cet exemple. C'est la petite fille qui tient le livre. C'est elle qui a fabriqué chaque page. Enfin, dans sa classe, ils ont fait un dessin de chaque page. Je vous passe les détails. Il y a eu plein de photocopies faites. Enfin, voilà. Elle a son livre. Elle raconte avec son livre. Et les autres miment ce qu'elle raconte. Donc, et là, il n'y a pas de maîtresse. Hein. Ils jouent à raconter. Il y en a une qui raconte et les autres qui jouent. Ici, vous voyez comment les élèves de petite section s'amusent à se raconter l'histoire sans personne. Donc, y a, en haut, on voit une qui lit pour les, qui raconte pour les copains. À côté, on voit la même chose. En bas, on en voit une qui raconte avec sa maquette. L'autre qui lit tranquillement et les autres qui écoutent. Et ici, on les voit qui racontent ensemble, là encore sans l'enseignante, qui s'entraînent à raconter ensemble. C'est que des petites sections. Là, on voit Afsa qui raconte l'histoire aux moyens. Alors ça, une petite section qui raconte l'histoire à des moyennes sections. Et le grand jour est arrivé. On part à l'école avec tout le matériel pour raconter l'histoire à la maison. Vous avez vu Lexi tout à l'heure. Donc, ils ont un texte. Ils ont souvent soit l'album, soit le texte de l'album. Vous avez vu chez Lexi, le papa avait le texte. En tout cas, si jamais il y a un trou de mémoire, ils ont quelque chose pour pouvoir s'aider. Si ça les... Voilà. Et puis, eh bien, ils ont du matériel différent pour raconter à la maison. Ce n'est pas les maquettes. Vous voyez ici une maquette avec les ficelles et les personnages. On voit très bien ici. On voit une autre, la sieste de Moussa, que vous avez vue tout à l'heure. Le livre fabriqué par les élèves eux-mêmes. Ça, c'est le travail d'une enseignante de petite section qui, pour chaque enfant, a pris des photos quand ils jouaient de la scène et quelles phrases ils ont dit. Et c'est ça qu'elle a écrit là. C'est pas du tout du par cœur. Elle a enregistré les élèves qui jouent et donc elle a noté ce qu'ils disaient pour l'écrire là. Et chaque enfant part avec son immobilisme, non ? Là, c'est pareil, c'est chaque enfant dessine son album, raconte et la maîtresse écrit ce que l'enfant a raconté. Pas l'histoire. L'enfant a raconté ça, c'est noté, c'est ça qui est écrit. Là, c'est d'autres idées. Ils partent avec ce petit matériel et la maîtresse qui a mangé 28 pots de flan pour avoir le chaudron qui ne se vend qu'à telle marque de magasin. Là, j'aime beaucoup toutes ces différences, c'est-à-dire comment, l'outil, il est contraignant, mais les gens, ils inventent plein de choses. Là, c'est les élèves eux-mêmes qui ont inventé qui ont fabriqué leur maquette, là. Et vous voyez, alors même que c'est du dessin guidé, comment les dessins ne sont pas les mêmes. Et puis ça, je vais m'autoriser à le lire, même si je me fais honte. Exemple, une lettre que l'Académie de Versailles a reçue d'une mère impliquée. Vous y voyez ou pas? Oui. Alors, vous, allez-y, lisez tout seul. À droite, vous y voyez? C'est la même chose, je l'ai tapé.